Bien. Bonjour. D'abord, quelques mots sur les prochaines séances. Alors, il y aura, comme il est annoncé dans le programme, il n'y aura pas cours la semaine prochaine ni celle d'après. Je reprendrai le cours donc le 23 février, et puis de nouveau le 2 mars. Le cours du 9 mars ne pourra pas avoir lieu. Je le rattraperai en avril. Et puis ensuite, les cours auront lieu jusqu'à la fin mars, comme prévu. De toute façon, tous ces changements sont annoncés sur le site. On avait commencé à aborder donc les mouvements de population nomade qui bouleversent de fond en comble tout le paysage historique, ethnique, archéologique, politique, à partir du milieu du IVe siècle. Je rappelle ici la très hypothétique et grossière cartographie que j'ai esquissée avec les Huns qui sortent de l'Altaï, peut-être en partie poussés par des raisons climatiques, dont une branche part vers l'Empire romain, et l'autre, avec des étapes que nous ne connaissons pas, probablement traverse la Sogdiane, en tout cas se retrouve incorporé dans les armées du roi sassanide Shapur II, et c'est là où nous avons le premier témoignage, l'extraordinaire texte d'Amir Marcellin qui les a vus à l'œuvre sous les murs d'Amida en 359. Alors, donc, à ce moment-là, ils sont donc incorporés avec leur propre souverain dans l'armée sassanide. Mais cette tentative d'alliance semble avoir été rapidement débordée. Nous voyons que Autocarestan, l'ancienne Bactriane autour de Bactre ici, les choses se dégradent à la fin du IVe siècle. Un indice très net, c'est l'arrêt des émissions monétaires de la dynastie vassale des Kouchano-Sassanides. Visiblement, les Sassanides ne sont plus les maîtres du jeu, même indirectement. Et par ailleurs, nous avons un témoignage qui manque un peu de précision, mais qui indique tout de même un bouleversement majeur dans ces années-là, la fin du règne du Sassanide Shapur II. C'est par un auteur byzantin qu'on transcrit maintenant, Paustos Buzand. Certains pensent même que c'est en fait un personnage qui n'a pas existé. Alors on appelle sa chronique parfois le Buzandaron. Dans les vieilles traductions françaises, on l'appelle Faust de Byzance. C'est tout à fait fantaisiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bien informé, qui écrit vers la fin du 5e siècle, un siècle après les événements, et dont le témoignage sur les régions orientales, et là c'est quelque chose qu'on va retrouver avec tous les témoignages arméniens ultérieurs, vient d'Arméniens qui avaient été incorporés dans l'armée sassanide et qui ont été rescapés des désastres, qui sont revenus raconter au pays, et c'est passé dans les chroniques arméniennes. Alors, j'avais dit un mot de cette politique des Sassanides qui ne s'est pas limitée qu'aux Arméniens, consistant à faire partir sur les fronts opposés de l'Empire les aristocraties turbulentes du front occidental. Et j'avais donc dit que ça préfigure exactement ce que les tsars feront avec beaucoup de succès, notamment avec les Polonais. Et il y a une analogie, un clin d'œil de l'histoire que j'aime bien rappeler. Vers 620, au moment des dernières guerres des Sassanides du côté de Bactre, le général qui remporte des victoires pour les Sassanides, c'est le prince arménien Sempad Bagratounian. En 1812, le général qui commande la cavalerie russe à Borodino, c'est le prince georgien Bagration. C'est la même famille. C'est très vraisemblablement... c'est la continuité du même phénomène. Les aristocraties caucasiennes, à la fois rebelles et puis, dans certains cas, s'illustrant héroïquement au service du Grand Empire qui les a annexés. Alors, que nous dit ce témoignage de Paustos? Là, on est vers 369, donc à la fin du très long règne de Shapur II, celui qui avait menait la campagne sassanide en 359, où Amir Marcellin a vu dans son armée les Chionites. Entre-temps, Shapur II s'est illustré en défaisant l'armée de l'empereur Julien l'Apostat, non loin de Ctésiphon. Et là, on est à la fin de son règne. Vers cette époque, la guerre entre les Perses et les Arméniens se calma, car le roi Arsacide des Couchants, qui résidait dans la cité de Batre, faisait la guerre à Shapur, le roi sassanide d'Iran. Alors, méfions-nous de la terminologie. C'est des terminologies anachroniques. Le roi Arsacide des Couchants, Arsacide, ça veut dire dynastie iranienne qui n'est pas celle des Sassanides. Les Couchants, ça veut dire les anciens territoires des Couchants. Et nous verrons que certains des conquérants vont effectivement assumer ce titre de roi des Couchants. Le seul élément qui est donc fiable, c'est la cité de Batre, enfin, qui résidait dans la cité de Batre. On peut penser qu'il menaçait la cité de Batre. Enfin, en tout cas, visiblement, ce n'est pas une rébellion des Kouchano-Sassanides. C'est l'arrivée de gens nouveaux sur leur territoire. Et c'est certainement des gens apparentés à ces Chionites qu'on a vus mobilisés dans l'armée de Shapur 10 ans avant. Le roi Shapur mobilisa l'armée perse tout entière. Et il rassembla aussi toute la cavalerie arménienne qu'il avait faite prisonnière, ce que je viens de vous raconter. Quand la guerre eut commencé, l'armée Kouchane pressa terriblement les forces perses, elle en tua beaucoup, fit beaucoup de prisonniers et en mit une partie en fuite. Et puis là, on apprend qu'un eunuque arménien sauve la vie du roi. Alors plus tard, cet eunuque arménien va se retrouver promu à des grands honneurs, etc. etc. Alors un trait qu'il faut bien comprendre avec les sources, les chroniques arméniennes. Dans les chroniques arméniennes, l'armée sassanide est toujours l'armée arménienne est toujours vainqueur. L'armée sassanide est toujours battue, sauf quand le général sassanide est un arménien. C'est toujours comme ça. Alors quelques années s'écoulent et puis alors là ça se passe encore plus mal. Vers 375, quand les Perses allèrent en guerre contre les Couchans, le roi de Perse envoya en avant avec ses propres troupes ses hommes qu'il avait capturés en Arménie, à nouveau. Quand les deux contingents s'affrontèrent, l'armée perse fut défaite par les forces des Couchans et s'enfuit en recevant des coups terribles. Les Couchans les rejoignirent et n'en laissèrent pas un en vie. Personne ne survécut pour ramener la nouvelle, sauf deux officiers arméniens. C'est typique d'une guerre contre les nomades. Il n'y a pas de bataille rangée. Ça se passe dans la débandade. Alors, il y a des choses qui sonnent très vraies malgré l'anachronisme de la terminologie. Il y a des choses qui sonnent vraies dans ce témoignage. En 369, vous noterez que le roi sassanide a participé personnellement à la bataille, puisqu'il a failli y laisser sa vie. Il a 57 ans. En 375, on n'entend pas dire qu'il a participé à la bataille. Il a 65 ans. Et il est à la fin de sa vie. Et en plus, on sait que dans ces dernières années, Shapur II était très diminué. Donc, ça donne l'impression de quelque chose d'authentique. Alors, dans la foulée, dans les dernières années du IVe siècle, on voit arriver au sud, c'est-à-dire passant l'Hindoukouche, du côté de Kaboul et du Gandhara, on voit arriver des nouveaux venus, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qui sont désignés à l'ouest comme Chionites, mais ce sont visiblement, tout le monde est d'accord pour considérer qu'ils font partie des Huns. Mais alors, ces nouveaux venus qui arrivent à ce moment-là, on a sur eux que le témoignage de leur monnaie. Alors, ces monnaies montrent... ces monnaies sont un peu plus tardives. Elles montrent... c'est déjà la dynastie qui va les remplacer, les Eftalites. Mais dès le début, dès ces premières émissions barbares, on a ce type physique tout à fait extraordinaire, avec une déformation crânienne spectaculaire en pain de sucre, déformation crânienne artificielle. Alors, les déformations crâniennes... On en avait vu avec des conquérants nomades précédents en Asie centrale, les Yuezhi, mais c'était beaucoup moins marqué, moins spectaculaire. Ce type de déformation, on le retrouve en Gaule dans des tombes qu'on attribue aux Huns. Alors on dit même, Louis Ambis pensait que c'était toujours pratiqué, ces déformations étaient toujours pratiquées en Saintonge. Jusqu'au XIXe siècle. Les médecins s'insurgeaient, évidemment, contre cette pratique. Et Louis Ambis avait toujours pensé que c'était dû à l'installation, au moment des invasions barbares, de contingents huns qui auraient laissé ça. Ces déformations... Alors, ce qu'on voit ici sur les portraits correspond à la réalité anthropologique, puisque voilà des crânes eftalites du musée de Samarcande. On voit exactement la même déformation. Ça a un sens bien précis. C'est destiné à marquer l'ethnicité et probablement aussi l'appartenance sociale. La déformation crânienne, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas falsifier. Des gens pourront toujours apprendre la langue des vainqueurs au point d'arriver à donner le change. Ils pourront prendre leur costume, mais ils ne pourront pas changer la forme du crâne qu'on leur a donné à leur berceau. Et c'est un marqueur absolument immanquable. Alors, on les voit arriver sur ces monnaies. À partir de là, les questions commencent. Parce que comment les désigner? On dit des Huns, probablement. Donc, Kyonite, puisque c'est le même mot que les Huns, comme je vous l'ai dit. Sur les monnaies, on a une légende qui sont désignées comme Al-Khon ou Al-Khan. Il y a un problème de lecture. Alors, les numismates de Vienne, qui ont publié les plus importants catalogues de ces monnaies, les appellent les Al-Khan et pensent que c'est une désignation, c'est peut-être un sous-peuple à part. Ils ne reconnaissent pas dans Al-Khan l'élément Hun. Bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est les Al-Khon. Alors, Khon, ce serait donc les Huns, mais que veut dire Al? Eh bien, il y a un vieux mot turc, Al, qui veut dire rouge. Ce serait les Huns rouges. Et on sait que plus tard, on va avoir les Huns blancs. Et les Huns rouges... ils sont connus, les Byzantins en parlent pour des époques ultérieures, les Kermikiones. Alors, Kermi, c'est le même mot que... c'est un mot iranien. C'est un mot iranien qu'on a, en fait, comme Karmir. Et effectivement, on a les Huns Karmir dans certains textes Pélévi. C'est un mot qui veut dire rouge. Donc, il y aurait dans un cas le nom des Huns rouges en iranien et dans l'autre cas dans la langue natale qui serait du turc. Alors, on a aussi les Arméniens parlent des Walkhon. Alors, Walkhon serait aussi peut-être la déformation de cet élément al. C'est compliqué. On n'arrive pas non plus à se mettre complètement d'accord sur la lecture des légendes. Les hypothèses qu'on peut faire. Alors, cette vague ou ces vagues d'invasion, si vous revoyez la carte que j'ai esquissée, on les a vues là, on les voit arriver en Inde du Nord-Ouest. Un siècle plus tard, des personnages qui s'appellent Grumbates, comme le chef des Kyonites qu'avait vu Amir Marcelin, qui sont établis à demeure au sud de Bactre. Il a bien fallu qu'ils traversent la Sogdienne, dont, au cours précédent, j'ai indiqué l'État, quand même, de nouveau relativement prospère à cette époque, avec un dynamisme nouveau de fortification, un début de dynamisme commercial, etc. Ils ont certainement traversé la Sogdiane, mais on n'a aucune source, on n'a aucun récit, aucun texte qui en parle. Les seuls qui auraient pu nous en parler, c'est les Chinois. Mais il se trouve que dans ces siècles-là, la diplomatie chinoise a perdu le contact avec l'Asie centrale. Elle a perdu le contact à la chute de la Découchan au début du IIIe siècle, et elle ne retrouvera le contact qu'au milieu du Ve siècle. Il y a une période de blanc. Malgré tout, du point de vue dans l'archéologie, on n'arrive pas à associer des destructions de forteresses, de remparts, de villes à cette vague d'invasion, mais il y a tout de même un marqueur, c'est la céramique. C'est le moment où on voit se diffuser dans les oasis, les villes de Sogdiane, une céramique d'un type nouveau, qui est une céramique grossière. Alors, la précédente, c'était déjà pas brillant, mais alors celle-là, c'est assez grossier, c'est vraiment de la céramique paysanne, avec des marqués, on la repère tout de suite parce qu'il y a des fausses dégoulinures de vernis qui veulent faire joli. En fait, c'est des dégoulinures. Les archéologues appellent ça la céramique Kaunchi à cause du premier site où on l'a trouvé. Et les archéologues, notamment Marchak et Raspopova, dans un très bon article qui était paru d'ailleurs en français, Les Nomades et la Sogdiane, dans un volume dirigé par Henri-Paul Francfort, Nomades et sédentaires en Asie centrale, paru en 90, ils voient une conséquence de ces invasions nomades, par un effet, ce qu'ils définissent comme un effet domino. C'est-à-dire que cette céramique, ce n'est pas les nomades qui l'ont fabriquée. Normalement, en principe, les nomades ne fabriquent pas de céramique. Ils fabriquent des chaudrons, ils ont des chaudronniers, ils ne fabriquent pas de céramique, ils utilisent la céramique des populations qu'ils traversent ou chez lesquelles ils s'établissent. Mais cette céramique, aux époques précédentes, était typique des populations montagnardes, semi-montagnardes des Piémonts. Des populations un peu retardées par rapport aux populations des plaines. Et alors, ces incursions nomades auraient entraîné une dépopulation dans le cœur des oasis avec un effet domino. Donc, c'est un repeuplement par ces populations venues des Piémonts. C'est quelque chose qu'on observe très bien et qui est très bien documenté au XVIIIe siècle, dans la région de Samarcande. Il y a eu à ce moment-là des invasions de Kazakhs. Et on voit que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est que les effets des invasions nomades ne s'observent pas toujours de manière directe. Là, c'est quand même très, très obscur pendant un demi-siècle. Mais finalement, il y a un pouvoir qui va se construire, émergeant de ces nouvelles populations. Un pouvoir que les textes que nous avons qualifient toujours de Hun. Hein, les textes, les Grecs, les Arméniens nous parlent de Hun. Mais là, ils ont un nouveau nom, c'est plus les Kyonites. Ils sont qualifiés, c'est pas seulement des Huns, ce sont les Huns Kidarites. D'après, semble-t-il, leur premier souverain. On a un texte chinois qui en parle très brièvement. C'est des informations recueillies vers 437, donc au moment où la Chine reprend contact. Ça a dû se passer donc peut-être 10 ou 20 ans avant. Le roi des grands Yuechi, c'est-à-dire couchant, encore ça désigne la zone, appelé Kidara, brave et féroce, finalement envoya ses troupes vers le sud et envahit le nord de l'Inde en franchissant les grandes montagnes, c'est-à-dire l'Hindoukouche, pour soumettre les 5 royaumes qui étaient au nord du Gandhara, les royaumes de montagne qui sont au nord de l'actuel Pakistan. On voit une construction étatique, on nous parle d'un roi, d'un conquérant. Alors, c'est probablement pas lui, ça doit être son fils ou son petit-fils, des monnaies frappées au Gandhara. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que le personnage, il s'intitule roi des couchants. Il se fait représenter à la Sassanide, hein, parce que c'est le seul moyen à cette époque d'exprimer une symbolique royale. Il y a des rubans qui flottent sur ses épaules. Il a une couronne à elle qui est un petit peu déformée en fleurons. Il a un symbole du soleil et de la lune sur la tête, imité de la couronne sassanide. Mais il n'a pas tout à fait une tête de sassanide. C'est-à-dire qu'il n'a pas de barbe. Tous les sassanides sont barbus, sauf tout à fait à la fin un roi enfant. Un homme chez les sassanides ne peut pas ne pas être barbu. On sait par les Chinois qu'on rasait la barbe uniquement aux criminels. Si vous n'aviez pas de barbe, c'est que vous étiez un eunuque ou un criminel. Donc, les rois étaient toujours barbus. On a même l'exemple de Shapur II, dont j'ai été amené à parler. Shapur II, c'est un fils posthume. Il a été couronné dans le ventre de sa mère. Dès ses premières monnaies, il est barbu. Voilà. Donc, on peut pas... Alors, lui, il n'a plus de barbe, plus de moustache. Et ça, bon, la pilosité rare, c'est un marqueur, disons, un peu conventionnel des peuples dits altaïques, type mongoloïdes. Bon, voilà. Vous verrez que la volonté de rupture physique n'est quand même pas très, très marquée sur ces portraits, de même que la volonté de rupture politique ne l'est pas non plus, puisque ces gens-là donc, ont une symbolique sassanide, régalienne sassanide et s'intitulent roi des couchants. Alors, vous verrez qu'avec la dynastie qui va suivre, les Heftalites, là, on y va carrément, et la rupture est totale sur tous les plans. Alors, voilà pour nos Kidarites. À nouveau, bon, ceux qui nous en parlent le plus en détail, ce sont les Arméniens. Ce sont les Arméniens parce que, rapidement, ces Kidarites ont causé des problèmes aux Sassanides sur leur frontière orientale, comme les Chionites avaient fait un siècle avant. Donc, on a cette chronique de l'évêque Elishé, l'histoire de Vardan et de la guerre arménienne, qui raconte avant tout la persécution dont les chrétiens ont été victimes par les Arméniens. Et donc, il y a une visée, évidemment, apologétique dans le texte, c'est que plus les Sassanides ont des ennuis dans leur guerre, plus le chroniqueur est content, parce que c'est le châtiment divin. Voilà, alors c'est le roi Yazdgird Ier, il marcha contre le royaume des Huns qu'ils appellent couchant. À nouveau, utilisation d'une terminologie anachronique, sauf que là, c'est un eux-mêmes qui s'intitule roi des couchants sur leur monnaie. Après avoir combattu pendant 2 ans, il s'avéra incapable de les impressionner. Les Huns qu'on appelle couchants, alors, eh bien voilà justement, je vais revenir là-dessus, mais on a eu la preuve que ce n'était pas une invention du chroniqueur arménien, puisque voilà le sceau d'un roi Kidarite de Samarcande, je vais revenir là-dessus après, inscrit en bactrien, qui a été découvert il y a quelques années. Le seigneur, non, le nom est effacé, roi des Huns Oglar, je vais revenir là-dessus, grand roi des couchants, Afshion de Samarcande. Afshion, c'est ce titre qu'on connaîtra plus tard comme Afshin, qui est le nom du seigneur local de Samarcande, et dont je vous ai dit au cours précédent que c'était peut-être un titre sarmate. En tout cas, ces gens-là donc s'intitulent roi des couchants. Ensuite, à quelques années plus tard, 949. Donc vous voyez, la première campagne n'a pas été concluante. Seconde campagne en 949, c'est peu de temps après. Hein. Vraiment, la menace est réelle. Il rassembla, c'est le roi sassanide, Yazdgird II. Il rassembla une force infinie en multitude et attaqua le pays des Heftalites. C'est un anachronisme, les Heftalites seront là plus tard. Quand le roi des couchants eut vu ceci, incapable de l'affronter en bataille, il se retira dans les régions désertiques imprenables et y demeura caché avec toutes ses troupes. Alors, tactique nomade de la fuite. Et moi, je soupçonne que c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils se sont emparés de Samarcande. Et qu'ils se sont mis à l'abri dans des régions où les armées sassanides ne pouvaient pas les atteindre. On a effectivement, voilà, avant la découverte du sceau de ce roi de Samarcande qui est dit roi des couchants, on avait cette monnaie écrite Kidara en sogdien, circulant à Samarcande. Donc on avait la preuve qu'ils avaient pris Samarcande. Alors, le roi des Perses attaqua ses provinces et ses pays, donc que le roi des Kidarites a déserté avec son armée, il a fait place nette, pris beaucoup de forteresses et de villes, très important pour nous, ça veut dire que la vie urbaine n'est pas anéantie dans ces régions, amassa des captifs et du butin et les ramena dans son empire. Mais alors, voilà, juste après, ça se gâte. 453-54, le roi Yasgird sortit avec toute son armée et marcha à la guerre contre les couchants. Il ordonna aux prisonniers arméniens, prêtres et nobles, de se joindre à la marche depuis Gorgan, au sud-est de la mer Caspienne, qui est la grande base de départ des armées sassaniennes. Il ordonna de les tenir dans la forteresse de Nishapur. Quand le roi fut arrivé sur la frontière de l'ennemi, il fut complètement vaincu et repartit couvert de honte, ayant perdu l'élite de son armée, ainsi que d'autres soldats de la cavalerie. Car l'ennemi n'avait pas attaqué les Perses en opposant des lignes de front, mais par surprise, en tombant sur chaque aile, passant beaucoup au fil de l'épée, puis disparaissant indemne. En employant cette tactique pendant de nombreux jours, ils épuisèrent l'armée perse. Donc, à nouveau, la tactique de harcèlement bien connue des populations nomades qui n'alignent pas des armées en bataille, mais qui vont utiliser une tactique de piqûre, d'affaiblissement, de harcèlement sur les ailes. Alors Yasgird passe sa fureur sur deux pauvres prêtres arméniens qui étaient avec lui. Ses saints furent martyrisés dans la province appelée Badris. Alors ça nous indique où a eu lieu la bataille. Le Badris, c'est au nord-ouest de l'Afghanistan, c'est à l'ouest de Bactre. Donc on voit où la bataille a eu lieu. Et alors un petit peu après, on a un texte byzantin, Priscus, qui résume les ambassades envoyées à cette époque. Alors c'est par lui qu'on a la description la plus détaillée de la cour d'Attila, parce qu'il a été lui-même ambassadeur chez Attila. Donc c'est le texte le plus précis que nous avons sur Attila, c'est par Priscus. Alors là, il nous dit, le nouveau roi des Perses, Péroz, donc qui a succédé à son père Yasgird, était sur les frontières entre son peuple et les Hun-Kidarites. Donc à nouveau, Hun-Kidarites. La cause de la guerre était que les Huns ne recevaient plus le tribut que les précédents souverains des Perses avaient payé. Très intéressant à lire. Ça veut dire que les coûts que les nouveaux envahisseurs ont portés à l'armée perse ont été tels que les Perses ont été obligés finalement d'acheter la paix en versant un tribut. Ça, on va retrouver ça au siècle suivant. Le père du roi, donc Yasgird II, avait refusé le paiement et entrepris la guerre. C'est probablement l'épisode dont on nous a parlé juste avant, que son fils avait hérité avec le royaume. Péroz dépêcha un envoyé à Kunras, le chef des Huns, disant qu'il souhaitait la paix et lui donner sa sœur en mariage. Très intéressant ce nom de Kunras. C'est probablement, non pas un nom, mais un titre. C'est Khan des Huns. Parce qu'à cette époque, les Grecs ne sont pas familiers du mot turc. Khan, alors il donne une désinence grecque, ras. Mais en fait, c'est le Khan des Huns. Voilà. Et puis, dix ans plus tard, les Sassanides en ont fini avec les Kidarites. Voilà, une ambassade arrive à des Perses annonçant qu'ils avaient écrasé les Huns Kidarites et avaient pris leur cité de Balaam, qui est sans doute Bactre. Bah, ils ont fini avec les Kidarites, mais vous allez voir que pour ça, ils se sont alliés avec le diable. Parce qu'ils se sont alliés avec les Eftalites, et les Eftalites, ça va être encore pire. Donc, des adversaires quand même au 5e siècle jusque dans ces années 460, des adversaires redoutables. Mais curieusement, ce n'est pas la seule manière dont nous appréhendons ce nouvel état des Kidarites. Quand on ne regarde pas sur les frontières, mais qu'on regarde à l'intérieur de l'Asie centrale, on a plutôt l'impression d'une période je dirais, d'une période novatrice où des germes de progrès sont semés. Je m'explique. C'est la première fois depuis les Grecs, cinq siècles auparavant, qu'un pouvoir politique centré sur la Bactriane va unifier à la fois la Sogdiane, au nord, avec Samarcande, et l'Inde du nord-ouest. Reconstituant donc, même les Kouchans n'avaient pas fait ça. Les Kouchans avaient conquis l'Inde, mais ils n'avaient pas été au nord. Et les Kidarites, ils reconstituent tout ça. Alors, je crois que je dois avoir voilà, une carte qui est récemment parue, on peut voir que ce dont les Kidarites se sont emparés, c'est quand même... Bon, ça, c'est visiblement leur pouvoir s'est construit en Bactriane sur... il a émergent des hordes des Huns non structurés qu'on voit avant. Ils se sont étendus jusqu'à Samarcande. Ils avaient la région de Kaboul. Et on les voit aussi ici. Et puis, ils ont fait des incursions sur... Donc, un empire qui reconstitue pour la première fois l'empire qu'avaient tenu les Grecs. Je reviens sur le sceau que j'avais montré tout à l'heure, découverte faite il y a quelques années. Comment interpréter cette titulature ? Bon, donc grand roi des Kouchans, qui s'inscrivent dans la continuité des grands empires qui les ont précédés. Afshian de Samarcande, c'est le titre local. Roi des Huns, Oglar. Alors, c'est une des façons de comprendre l'inscription. Il y en a d'autres. Ça pourrait être, en fait, Oglar pourrait être une dénomination tribale. Ça pourrait être le nom qu'on va retrouver plus tard comme les Ogours. Il y a deux grandes confédérations chez les peuples turcs, il y a les Ogours et les Oghouzes. Et ça pourrait être déjà les Oghouzes. Les Ogours. Autre façon de comprendre, c'est en fait le mot turc Oghul, qui veut dire fils. Donc ce seraient les Huns royaux. Voilà, les Huns de la lignée royale, les fils des rois. Bien. En tout cas, oui, ce personnage affiche une identité politique multiple. Hein, à la fois Kushan, local Samarcandi, et nomade, d'origine nomade. Et physiquement, bon, l'image n'est pas très nette, mais sur de meilleurs spécimens, on voit que, comme l'autre roi Kidarite dont on a vu la monnaie, il a une couronne à la Sassanide, des rubans à la Sassanide, mais il n'est pas barbu. Il marque quand même une certaine identité. Il se pose un problème avec le lieu où ce sceau a été trouvé. Ce sceau a été mis par le représentant d'une branche de la dynastie qui, visiblement, il le dit lui-même, règne à Samarcande, tout à fait à l'extrémité nord de l'Empire. Or, d'après les indications fournies par les marchands au collectionneur Amanur Rahman, qui a acquis ce sceau, et qui m'a autorisé avec Nicolas Sims-Williams à le publier, ça a été trouvé ici, au Bunair, au nord du Pakistan. Et alors, ce qui complique le tout, c'est qu'entre-temps, des fouilles d'un château, d'un site royal probablement, à côté de Samarcande, ont donné des sceaux du même type, moins lisibles. On ne lit pas bien l'inscription, mais on voit que c'est les sceaux de la même série. Alors, évidemment, une explication perverse, ce serait de dire, ils n'ont pas su contrôler... Ils ne contrôlaient pas leurs ouvriers sur la fouille près de Samarcande, un sceau a été volé, et puis ça a fini par être vendu dans une collection privée, et pour donner le change, l'intermédiaire a fait croire que ça venait du Pakistan. J'y crois pas trop, parce que... Je n'ai pas connaissance actuellement de circuits d'exportation d'objets volés dans des fouilles contrôlées en Ouzbékistan qui partirait tout de suite sur ses circuits de collectionneur à Londres. Où, enfin, le collectionneur qui possède le sceau, en fait, est à Bahreïn. Il est à Dubaï. Ça me paraît difficile à imaginer. Il y a un autre scénario que je crois plus vraisemblable, c'est que l'empire Kidarite, ben, je l'ai dit, ben, il a peut-être été éphémère, mais il était grand. Il y avait plusieurs branches dynastiques, visiblement. Il y en avait une à Samarcande, il devait y en avoir une à Bactre, et puis probablement une au Gandhara. Et ces gens-là s'échangeaient de la correspondance officielle. Ce qui expliquerait la découverte du sceau d'un roi, d'un prince de Samarcande dans cette vallée. Dans cette vallée du... Le Bounair, en fait, c'est une partie... C'est la vallée du Swat. En plus, on sait que les derniers restes de l'État Kidarite, justement, semblent se localiser là. Donc, ça pourrait être plutôt l'explication. Alors, de cette époque, il faut être prudent parce que les chronologies archéologiques ne sont pas très précises pour ces siècles, je l'ai dit, étant donné que la céramique est peu innovante et les monnaies très rares, mais il semble quand même que ce soit de ces décennies, du milieu du 5e siècle, qu'il faut dater là, un nouveau dynamisme de fortification urbaine à Samarcande et autour de Samarcande, la construction d'un rempart interne qui matérialise la rétractation de la ville depuis l'époque antique, et peut-être déjà des fondations urbaines planifiées. Il semblerait, par exemple, que c'est à cette époque que remonte la fondation de la ville de Penjiken, dont j'ai déjà été amené à parler, dont je vais être amené à parler beaucoup plus. Donc, voyez, vision ambivalente, quand on prend les Chinois, ils parlent de conquérants féroces, quand on prend les Sassanides, ce sont des adversaires redoutables qui sont perçus comme de purs nomades. On nous dit quand même qu'ils ont des villes. Et puis quand on les regarde à l'intérieur, on a plutôt l'impression d'un début de stabilisation, d'un dynamisme peut-être favorisé par justement cette intégration de territoires qui avaient été depuis longtemps séparés. C'est aussi le moment où on voit naître la peinture murale sogdienne dans la région. Je vous ai montré des exemplaires tout à l'heure dans la région de Samarcande. Par probablement migration d'artistes venus de Bactriane. Donc des échanges humains, des échanges artistiques. Alors, je vous ai donc... On en était resté au texte qui nous explique que... Enfin, le texte de Priscus, qu'en 467, tout content, le nouveau roi sassanide Péroz annonce qu'il est débarrassé du péril Kidarite, parce qu'il a pris Bactre. Non, s'il a été annoncé ça aux Byzantins, c'est évidemment un message. C'est pour dire aux Byzantins, maintenant, vous devez vous tenir à carreau avec nous, parce que nous sommes libérés d'une pression sur le front Est. Donc on va avoir le temps de s'occuper de vous. Bien. Mais ce que ne dit pas ce texte, c'est que pour éliminer l'État Kidarite, les Sassanides se sont alliés à un nouveau peuple, une nouvelle dynastie qui s'appelle les Eftalites et qui vont beaucoup faire parler d'eux. Alors, ces Eftalites sortent de la même mouvance, ils sortent à nouveau de ces populations arrivées un siècle plus tôt, depuis l'Altaï, voilà. Tout de suite, avec eux, on voit que l'ère des compromis est terminée. Déjà, voilà comment ils se font représenter. C'est une monnaie d'un des souverains, enfin vers 460-600, ça doit être Yavuga. Alors, la déformation crânienne que j'ai montrée tout à l'heure, quand même des rubans à la Sassanide, mais bon. Il n'a vraiment rien fait pour ressembler à pour avoir une tête présentable dans le concert diplomatique. Les grosses boucles d'oreilles qui donnent un aspect encore plus féroce. Alors, on a suffisamment d'exemplaires de monnaie de bonne qualité pour savoir que ça n'est pas dû à la maladresse du graveur. Ce n'est pas non plus l'irrévérence du graveur qui a voulu caricaturer ses maîtres. C'est comme ça qu'ils ont voulu se montrer. Bien. À partir des Ephthalites, le titre roi des couchants disparaît. C'est-à-dire que, c'est très clair, il ne revendique plus de filiation politique avec les grands empires sédentaires précédents. Il se présente comme une construction impériale nouvelle. Ça rappelle tout à fait, ça rappelle Attila, qui, de tous les conquérants qui s'abattent sur l'Empire romain dans la première moitié du Ve siècle, sera le seul qui ne prétendra pas, sauf tout à fait à la fin, s'intégrer dans les structures de l'Empire romain. Ephthalite. Alors, que veut dire Ephthalite ? Eh bien, on ne sait pas. Depuis assez peu de temps, on sait que la forme probablement authentique, parce qu'on l'a par les textes bactriens, c'est Evdal. Alors, avant ça, bon, Ebdal, alors on rapprochait ça de Avd, le chiffre 7. Alors, bon, il y a des confédérations nomades où c'est les 7 ceci, les 7 cela. Alors maintenant, on pense que c'est peut-être une étymologie populaire et qu'en fait, le véritable nom était différent. La situation linguistique est difficile à saisir. Enfin, j'en dirai un mot. Disons que les seules langues qu'ils emploient sur leur monnaie, c'est le bactrien, ouais, et le moyen indien en Inde. Que parlait-il vraiment ? Il y a diverses hypothèses. À partir, donc, ces Ephthalites, on les a vus. En fait, ils apparaissent sur la scène déjà vers 457, 10 ans après, avant l'élimination des Kidarites. On les voit surgir à ce moment-là. Ils sont probablement en Bactriane orientale, sur les piémonts montagneux. Ils envoient une ambassade en Chine pour montrer qu'ils existent. Et du côté ouest, ils interviennent dans la querelle de succession qui éclate à ce moment-là pour le trône sassanide. Et en fait, du coup, ils soutiennent le prétendant Péroz, qui est le gouverneur du Sistan, donc une province qui pouvait être atteinte depuis la Bactriane orientale. C'est lui qui est soutenu et il monte sur le trône avec leur aide et il va conclure une alliance avec eux, pensant agir avec une grande finesse politique pour éliminer donc les Kidarites. Les Ephthalites ont laissé dans l'histoire une épouvantable réputation qui est transmise à la fois par les sources arméniennes, par les sources iraniennes et aussi par des sources nouvelles qui apparaissent à ce moment-là, ce sont les pèlerins bouddhiques venus de Chine. Je vais vous citer le commentaire que tout cela a inspiré au grand Alfred Fouché dans son livre admirable « La vieille route de l'Inde », tome 2, publié en 1947, qui avait fait une esquisse politique tout à fait remarquable pour l'époque, une esquisse de l'histoire politique de l'Asie centrale à travers les siècles, jusqu'à la conquête arabe. Voilà ce qu'il écrit sur les Ephthalites. Tandis que leurs congénères se répandaient à l'ouest sur l'Europe entière, ceux-ci prirent la route du sud, et leurs hordes foulèrent à nouveau les routes du nord-ouest pour pénétrer jusque dans le Pendjab et le Malwa. Elles y apportaient une nouveauté, à savoir ce don de cruauté froide qui continuera avec Gengis Khan et Tamerlan à rester l'attribut caractéristique de leur race et le principe directeur de leur stratégie. Quand Fouché écrit race, il veut dire turc. Donc, c'est un texte qui, évidemment, écrit dans le, avec les formules de l'époque. Mais voilà, c'est l'image que les Eftalites ont laissée dans l'histoire. Alors, on a par ailleurs, ce qui fait tout à fait écho à ça, à nouveau une notice arménienne. C'est en 484, au moment, j'y reviendrai, où le pauvre Péroz, après avoir perdu deux guerres contre les Eftalites, a tenté d'en mener une troisième et s'est fait tuer avec toute son armée. Donc, c'est le texte qui est en haut. À l'époque où le roi Péroz se trouvait dans le Gorgane, il rassembla une nombreuse armée pour aller faire la guerre aux Eftalites. Même en temps de paix, personne ne pouvait hardiment et sans crainte regarder les Eftalites ni même entendre leur nom. Péroz se mit en campagne, mais son armée marchait comme des condamnés à mort plutôt que comme une armée allant à la guerre. Et alors, on a un témoignage rétrospectif, donc à peu près un siècle après les événements, par l'illustre pèlerin chinois Xuanzang, qui a voyagé en Asie centrale et en Inde. Plusieurs siècles auparavant, il y avait un roi nommé Mihirakula. Alors, on sait quand il a régné, 515-540, qui régnait depuis cette ville sur toutes les parties de l'Inde. Cette ville, c'est Sialkot, au nord du Pakistan. Il envoyait un ordre dans les cinq parties de l'Inde, enjoignant de détruire tout ce qui était bouddhique. Puis il ravagea le Gandhara. 1600 stupas et monastères furent détruits. 30 millions de gens de la classe supérieure furent mis à mort au bord de l'Indus. 30 millions de la classe moyenne furent noyés. 30 millions de la classe inférieure furent donnés aux soldats comme esclaves. Vous voyez, il a le record absolu. Il a battu Hitler, il a battu Staline, il a le record absolu, et même peut-être Jean Giscan, il a le record absolu des massacres. D'ailleurs, en Inde, dans la littérature bouddhique, ce personnage Mihirakula se trouve toujours affublé du surnom Trihotikan, c'est-à-dire, Trikotihan, c'est-à-dire tueur de trois kotis. Un koti, c'est 10 millions d'habitants. Alors le voilà. Évidemment, le physique que lui donnent les Monet n'est pas contradictoire avec l'image qu'en transmet Xuanzang. Alors ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il ne se réfère pas au bouddhisme, clairement. Il a un parasol, un symbole royal indien, qui n'est pas du tout nécessairement bouddhique. Il a un trident, qu'il ferait plutôt tendre du côté du shivaïsme. Et au revers, on a l'autel du feu à la sassanide. Donc, une espèce d'éclectisme religieux, mais dans lequel il n'y a pas le bouddhisme. Qu'est-ce que ce personnage fait en Inde ? Comme les Kidarites avant eux, les Eftalites, très très tôt, dès le début de leur pouvoir, avant même qu'ils se soient emparés de la totalité de Bactre et de la totalité de la Bactriane, sont vraisemblablement descendus sur l'Inde. On a l'impression que dès 460, ils sont déjà là. Et il semblerait qu'ils délèguent une branche de leur dynastie pour gouverner ces territoires indiens avec un titre spécifique, donc le titre de Tegin, qui est un titre qu'on va retrouver plus tard chez les Turcs, qui est en fait subordonné, c'est un titre, ça veut dire souverain en second. Normalement, chez les peuples turcs, le Tegin sera subordonné au Kagan, qui est le souverain suprême. On n'a pas le titre Kagan chez les Eftalites, on a le titre Yabgu. Mais on a l'impression que là aussi, c'est une visible. L'impression qui en ressort, c'est ce qu'on aura plus tard dans beaucoup de constructions politiques nomades en Asie centrale, une espèce de condominium familial où plusieurs branches règnent simultanément sur plusieurs territoires et l'ordre de succession ne va pas forcément du père au fils. On va parfois plutôt prendre le successeur dans le personnage le plus âgé d'une autre branche, etc. C'est ce qu'on retrouvera après avec les Seldjoukides, etc. Là, alors, c'est un désaccord fondamental avec nos collègues de Vienne, qui, eux, considèrent que ces personnages, donc comme Miracula et ses prédécesseurs, ses successeurs, ne sont pas des Eftalites. Ce sont les continuateurs des conquérants précédents, ces fameux Al-Khan. Les Eftalites seraient restés en Bactriane. Je pense que ça va... C'est contraire à ce que nous disent les textes chinois. Il est clair pour les Chinois que les gens à qui ils ont eu affaire, Miracula, les maîtres du Gandhara et du Cachemire, étaient des représentants de l'Empire Eftalite. Ce qui donne ce qui fausse l'impression, c'est qu'on a des monnaies individualisées des souverains, de ces souverains au Gandhara, voilà, mais qu'en Bactriane, cœur de l'Empire Eftalite, il y a très très peu de monnaies individualisées. Donc c'est du coup cette idée que ce ne seraient pas eux, ce seraient les représentants de dynasties antérieures. En réalité, il y a une explication. Il y a une explication au fait que c'est seulement en Inde qu'ils ont émis des monnaies avec véritablement leur portrait. Je serai amené à en reparler. Alors, est-ce qu'on doit véritablement prendre tout ça au pied de la lettre ? Moi, je dirais qu'il faut peut-être distinguer entre, d'un côté, la terreur, qui a été très clairement une arme de guerre, y compris, comme je l'ai dit, en jouant sur leur physique irréconciliable à tout canon esthétique antérieur, qu'il soit iranien ou grec, et les massacres dont l'ampleur est peut-être moins avérée. L'énormité même des chiffres donnés par Sheng Zhang leur retire une certaine crédibilité. C'était la tendance naturelle des auteurs bouddhiques de magnifier les horreurs du temps, parce qu'on était entré dans le Kali-Kalpa, c'est-à-dire le cycle cosmique qui va aboutir à la combustion du monde et qui ne peut être qu'une succession de catastrophes. Donc, c'est une vision qui n'est pas une vision historique, c'est une vision métaphysique. C'est une vision... C'est l'amplification de l'idée qu'on est dans un temps qui, de toute façon, est horrible. Il ne faut pas prendre ça comme des données véritablement historiques. Le matériel archéologique pour ces régions de l'Inde du Nord supposées avoir été complètement ravagées à cette époque, puisqu'encore une fois, d'après ce texte de Sheng Zhang, tout ce qui était bouddhique a été anéanti, 1600 stupas et monastères détruits, etc. etc. Bon, l'archéologie n'a pas trouvé grand-chose pour cela. On constate plutôt que le bouddhisme existait avant, il continuera après. Certes, il amorce une période moins prospère, un long déclin séculaire, mais il n'est pas du tout évident que l'action propre des Eftalites y ait été pour grand-chose. Alors, on a parlé, le grand archéologue anglais, Sir John Marshall, qui fouillait le site de Taxila, a cherché les preuves des horreurs dans les années 1920, a cherché les preuves des horreurs des Eftalites, il pense les avoir trouvées, puisqu'il a trouvé, effectivement, il y a un monastère près de Taxila où il y a eu un massacre. Alors, quand on va voir le matériel, ce massacre a fait 6 victimes. Et une partie des victimes sont en fait des Eftalites. Donc, il y avait visiblement... Il y a eu un combat lors d'une tentative probablement de pillage, une petite incursion de pillard pour s'emparer des richesses du monastère. Ça n'évoque pas une persécution, un génocide, une persécution massive. Bon, effectivement, alors Il y a des monnaies de cette époque dans la couche de destruction de Taxila, donc peut-être qu'effectivement, là, il y a eu un moment difficile. Si on prend les pèlerins bouddhiques, non pas écrivant un siècle après les faits, comme Xuan Zang, mais contemporains des événements, on n'a pas le même son de cloche. Le premier pèlerin dont on a un récit assez détaillé, qui arrive à cette époque depuis la Chine, c'est Fatien, qui se trouve au Gandhara vers 405. Alors, il est maintenant facilement accessible dans une excellente traduction française de Jean-Pierre Drège, parue aux Belles Lettres dans la collection des, classiques chinois. Fatien passe au Gandhara exactement au moment où cette première vague nomade dite des Alhon est censée s'y déverser. Fatien ne nous dit rien du tout sur ces gens-là, rien du tout. Lui, il ne voit que, alors peut-être, on s'est dit, il était tellement détaché du monde sensible qu'il voyait vraiment aucune des horreurs qui se passaient autour de lui. Effectivement, il s'intéresse aux reliques, il s'intéresse aux monastères. Si ça avait été une telle période d'horreur, il aurait quand même dit quelque chose. Et puis alors, on a un autre témoignage de quelqu'un qui, en fait, s'est retrouvé en présence de Mihirakula, le terrible massacreur dont nous parle Xuan Zang. C'est Song Yun, qui y est vers 519-520. Et c'est pas exactement le ton n'est pas exactement le même. Dans la deuxième décade du quatrième mois, les pèlerins entrèrent dans le royaume du Gandhara. Quand il avait été vaincu par les Ephthalites, on y avait placé comme roi un Teguin. Vous voyez, moi, c'est les raisons pour lesquelles je ne crois pas à l'explication de nos collègues de Vienne. Il est clair que ces gens-là sont des vice-rois Ephthalites. Depuis qu'ils gouvernent ce royaume, deux générations se sont déjà écoulées. Le roi est d'un naturel méchant et cruel. Il fait mettre à mort beaucoup de gens. Il fait mettre à mort beaucoup de gens, il est méchant et cruel. Oui, c'est son métier, mais est-ce que ça en fait un tel massacreur? Il ne croit pas à la religion bouddhique, il se plaît à sacrifier aux démons et aux génies. Ça, dans l'esprit du pèlerin bouddhique, ça peut vouloir dire les divinités indiennes non bouddhiques, ça peut vouloir dire les cultes ancestraux des Ephthalites dont nous ne savons rien. Ce roi se tenait constamment sur la frontière du Cachemire sans jamais revenir. Ses soldats étaient épuisés et son peuple accablé. Mais quand Song Yun fut entré en relation habituelle avec lui, il constata qu'il avait des sentiments humains. D'ailleurs, il suffit de le voir. Bon. Le roi l'emmena dans un temple où on était entretenu fort chichement. Donc, si je comprends bien, il a quand même il a une politesse élémentaire envers cet envoyé. Il l'amène dans un temple bouddhique. Bon, le temple ne roule pas sur l'or, mais Mihirakula n'a pas du tout anéanti le bouddhisme même aux environs de sa capitale. Alors, j'ai abrégé la citation, le dialogue avec... Le dialogue avec Song Yun est assez intéressant parce que Song Yun, qui n'a rien à craindre, puisque il n'est pas du tout attaché à l'existence matérielle dans ce monde, parle avec une certaine insolence en fait à Mihirakula. Il lui dit tu dois quand même beaucoup. Oui, parce que Mihirakula. Marque une certaine compassion. Il dit, pour venir jusqu'à moi depuis la Chine, tu as dû traverser beaucoup d'épreuves, tu es venu à pied, tu es venu de loin, etc. Alors Song Yun est un peu énervé parce que quand il lui lit les lettres de l'empereur de Chine, Mihirakula ne se met pas à genoux, n'est pas en position de respect, donc ne manifeste pas son inféodation. Alors, Song Yun, un peu énervé, dit « Oui, bon, j'ai certes subi des épreuves pour venir jusqu'à toi. Mais toi, ça fait 2 ans que tu es bloqué avec ton armée pour réduire ce petit royaume du Cachemire et que tu n'y arrives pas. Donc, on a tous nos petits problèmes, etc. Et finalement, au lieu de le faire exécuter immédiatement, ce à quoi on aurait pu s'attendre, Miracula, finalement, admet que... Oui, bon, effectivement, il n'a pas beaucoup de succès dans cette campagne, mais que finalement, il va y arriver, et qu'en ce qui concerne l'empereur de Chine, ce n'est pas du tout un manque de respect. Quand nous recevons, quand notre père ou notre mère nous écrivent, à nous les Eftalites, on reste assis pour lire la lettre, je ne vais pas faire autre chose pour lire la lettre de l'empereur de Chine que je considère comme mon père. Bon, voilà. Donc, ça se termine entre gens de bonne compagnie. Voilà. Alors, très intéressant, il y a parfois quand même dans ces textes des résonances tout à fait curieuses. Voilà, un contrat bactrien, je vous ai parlé des archives bactriennes du petit royaume de Robe, hein, donc à ce moment-là, qui se trouve sous domination eftalite, 517. C'est pratiquement exactement l'année où Sangyun a rencontré Mihirakula aux frontières du Cachemire. Et Sangyun nous dit donc que les soldats étaient épuisés et le peuple accablé. On va comprendre parce qu'ils sont saignés à blanc par les dépenses de cette guerre. Et que nous dit ce contrat bactrien ? La taxe des seigneurs eftalites sur notre maison était lourde et je n'ai aucun actif domestique sur lequel nous puissions la payer. Donc on a là, en écho, l'image d'une très forte pression fiscale. Alors ça nous... Ça nous montre un régime dur, mais en même temps, ça nous montre un régime qui s'est étatisé, qui a intégré les contraintes de l'administration de territoires sédentaires, puisqu'il fait tourner la pompe à finances. Ce n'est pas seulement au stade où on en est maintenant, à la troisième génération des Eftalites, ce n'est pas le pillage, ce n'est pas le tribut, c'est la fiscalité. Voilà. Donc, dans 3 semaines, si vous le voulez bien, nous reprendrons les questions de ces invasions nomades. Après quoi, comme je l'avais annoncé, pour les derniers cours, je descendrai davantage sur le terrain et examinerai de manière plus, disons d'une manière plus strictement archéologique, ce que ces époques nous ont laissé, notamment en matière de construction urbaine et militaire. Je vous remercie.